C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 94 du 2 décembre 2024. Au sommaire, Famille queer, un livre qui valorise les familles de la diversité sexuelle et de genre. Sentiment d'insécurité dans le village à Montréal, plus fort que jamais, l'Association citoyenne du village réclame de l'action. Les violences sexuelles dans les communautés de LGBTQIA+, combattre ce fléau. Et à notre segment Culture queer, le salon du livre de fierté littéraire.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
Bienvenue tout le monde à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Avant d'entreprendre nos entrevues, j'aimerais faire une mise au point très importante. Je suis convaincu que l'auditoire de cette émission est balado et bienveillante, par contre, on ne retrouve pas toujours cette qualité sur les réseaux sociaux. J'ai récemment publié sur mes réseaux sociaux une photo avec des personnes collaboratrices à cette émission. L'une d'entre elles a reçu des commentaires grossophobes inacceptables. J'ai retiré la photo à la demande de cette personne, mais cela a quand même eu pour effet de non désirer de contribuer à l'invisibilisation des personnes de la diversité corporelle.
Discussion.
Près de 10 ans après la parution de Famille LGBT, le guide « Une introduction à la réalité des familles de la diversité sexuelle et de genre », et malgré d'importantes évolutions sociales et juridiques, les discours réactionnaires sont plus que jamais décomplexés. Le livre « Famille queer, récits et célébrations » mesure le chemin parcouru avec Antoine Defond, le ressac que nous vivons depuis quelques années. Il donne donc la parole à plus d'une trentaine de familles d'ici qui se confient sur leur réussite, leur deuil, leurs embûches et auxquelles elles ont eu à faire face. Nous recevons les co-autorices, donc Marianne Schubert, c'est comme ça qu'on prononce ton nom, Schubert,
oui, c'est ça? Comme ça, oui.
Et Mona Greenbaum, bienvenue à l'émission toutes les deux.
Merci.
J'aimerais vous demander quel pronom et quels accords vous utilisez.
Pronom « elle », accord féminin pour moi.
Même chose pour
moi. Bon, ça va être plus facile. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire « Famille queer »
Est-ce que je commence?
Vas-y,
oui,
Mona.
C'est ça. Mais je n'ai pas écrit, c'est Marianne qui l'a écrit, mais je suis à l'origine du projet, dans le sens qu'en 2023, on fêtait notre 25e anniversaire. Puis on a décidé de vraiment souligner l'importance des familles dans l'évolution de nos droits et de notre acceptation sociale. Donc, pour faire ça, on a fait comme une expo des photos et aussi une balado qui s'appelle « Pour moi, la famille ».
Oui.
Puis quand on a fait la balado, on a fait vraiment des entrevues extrêmement intéressantes, mais dans le format d'une balado, on a dû beaucoup, beaucoup couper. Donc, c'est à partir de ça, avec toute l'information qu'on a perdue un peu dans le balado, que j'ai pensé, oh, ça serait vraiment bien d'avoir comme plus de détails sur ça, de vraiment être capable de parler de ces familles en plus grand détail, puis analyser notre contexte social actuel. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à Marianne.
Oui, puis il faut dire, j'ai oublié de dire, Mona, tu es aussi la fondatrice et la co-directrice générale de la Coalition des familles LGBT.
Exactement.
Marianne.
Oui. Quel est mon rôle dans la vie?
Oui.
Je suis sociologue, chercheure, affiliée au département de travail social à l'Université de Montréal, mais aussi personne concernée, maman lesbienne, membre de la coalition des familles LGBT depuis plus de 10 ans.
Mais qu'est-ce qui t'a motivée à écrire ce livre?
À
part le fait que Mona te l'a demandé.
Un peu tout ça. Donc, je pense que c'est ma collaboration aussi de longue date avec Mona. Donc, autant au niveau personnel que même dans mes recherches. Et puis, j'étais rendue à ce moment-là dans ma vie après plusieurs réflexions sur les familles. Puis, Mona est vraiment venue vers moi. Le timing était comme parfait. Donc, c'est vraiment, ça s'inscrit aussi dans une collaboration de plusieurs années puis un lien de confiance entre nous deux.
Comment on a choisi les familles?
Mais on a vraiment pensé à montrer la diversité des familles LGBT qui existent. C'est comme quand j'ai fondé la coalition en 1998, on était des familles lesbo-parentales, blanches, basées à Montréal, comme, avec deux parents. Donc, c'est comme ça a beaucoup changé à travers les années. On a beaucoup de différents modèles familiales. On a des familles avec toutes sortes d'identités autres que leurs identités LGBTQ. On a voulu aussi montrer les familles qui vivent à l'extérieur des grands centres urbains, des familles BIPOC, donc Black Indigenous People of Color, des différentes façons de fonder des familles. Donc, on est tellement diverses. Donc, ça faisait partie de notre réflexion quand on a choisi les familles.
Ce livre mentionne la créativité, l'agentivité, cette faculté d'action d'un être ou sa capacité d'agir sur le monde et sur les autres. Je voulais le définir parce que ce n'est pas un mot que tout le monde connaît ou en fait ou à transformer ou à influencer les gens. Mm-hmm. Alors, on a parlé donc de ces qualités des familles. Donnez-moi des exemples de la manière que ces familles-là ont été innovatrices ou ont innové là, dans la formation de qui elles sont, ces familles.
Mm. Il y a plein de façons de le reconnaître, mais déjà de réaliser que même s'il y a des droits qui sont acquis puis une plus grande facilité d'accès à la famille, il y a encore des barrières qui sont là à tous les jours, des barrières interpersonnelles, des barrières structurelles, juste le fait de devoir constamment nommer, être visible à l'école, au travail. Donc, tout ça, ça demeure quand même des barrières. Donc, le simple fait de vivre en tant que famille LGBT, c'est un acte, comme on dit, d'agentivité. Oui. C'est faire preuve de créativité, de force, de courage. Donc, mais après ça, il y a plein de façons de réfléchir à l'extérieur des cadres normatif de la famille, puis je pense que c'est là où la créativité elle rentre en ligne de compte. Donc, par exemple, s'imaginer d'être une famille pluriparentale, donc s'autoriser le droit à penser à plus loin que la biparentalité. On en a des familles qui ont eu des enfants avec donc plus que soit un partenaire ou vraiment dans une configuration où c'est un couple, puis ils vont aller vers des amis pour fonder leur famille. Toute la notion aussi de la recomposition familiale qui est très importante.
C'est pas différent, en fait, des couples hétérosexuels parce qu'ils en ont des familles recomposées.
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, mais après, il y a quand même une composante qui est différente parce que je l'explore un peu dans le livre, mais il peut y avoir des défis liés quand on est une personne... On s'est beaucoup battu pour avoir une reconnaissance au niveau de nos familles. Oui. Puis après ça, on se sépare. Moi, je l'ai vécu personnellement dans ma propre vie. Il y a aussi des enjeux... personnels qui peuvent ressortir, des insécurités. Comment est-ce que les autres vont nous voir? Est-ce qu'ils vont... comprendre, accepter notre séparation, il y a quand même des enjeux qui sont importants. Puis voilà, de s'autoriser à recomposer, reconfigurer nos familles, même si on est une personne queer, en fait.
Il y a des défis, je sors des questions qu'on avait préparées, mais il y a des défis que j'ai trouvé intéressants que vous nommiez dans ce livre. Bon, outre celui de quand on inscrit les enfants à l'école, c'est papa, maman, des fois les rôles sont genrés, mais aussi, vous avez une grande inquiétude, puis j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené, vous en avez parlé à plusieurs moments, à les enfants là-dedans, comment ils vivent ça et comment ils vivent quand ils vont à l'école.
Oui.
Quand on dit, oh, oui, ta famille n'est pas normale.
Oui. Oui, mais c'est toujours là, c'était toujours... présente depuis qu'on a fondé le groupe il y a 25 ans, puis peut-être même encore un peu plus ces jours-ci à cause du backlash qu'on vit actuellement ou comme tout concernant la diversité sexuelle de genre est critiqué et puis peut être comme attaqué d'une façon ou d'une autre. Donc, nos enfants vivent pas nécessairement directement, mais ils voient ça dans les milieux scolaires. Il y a comme toutes sortes d'exemples ou à l'école, il y a certains enfants fort probablement à cause de leurs parents qui démontrent une manque d'ouverture. Donc ça revient encore malheureusement.
Et comment, je reviens toujours à ça, d'avoir expliqué aussi aux enfants, t'as deux mamans ou t'as plus que deux parents aussi? Oui.
Oui, mais ça, oui, c'est ça, c'est sûr, il y a beaucoup plus de différents types de configurations familiales aussi, mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est aussi qu'on ne parle pas juste de comme nos identités comme personnes queer, mais il y a une intersection d'autres identités aussi qui est très présente dans le livre, donc des familles de différentes origines culturelles qui ont comme des familles, qui ont des croyances, qui veulent comme transmettre ça à la prochaine génération. Donc, c'est pas juste comme « je suis gay » puis points.
Ah non, il y a beaucoup d'intersectionnalité là-dedans.
Vraiment
oui.
une panoplie oui. de différents aspects à ma personnalité et puis à mon identité. Mm. Donc ça, c'était pas du tout présent. Même dans le livre qu'on a fait il y a 10 ans, c'était juste comme on parlait de comment fonder nos familles et puis nos problèmes avec les institutions. Mais maintenant, c'est un peu plus comme une réflexion sur notre propre identité.
Exactement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment les parents... Ils réfléchissaient beaucoup à comment on accompagne nos enfants à vivre les différentes oppressions auxquelles ils vont faire face. C'est vraiment des réflexions de l'ordre de l'accompagnement, de comment répondre, de comment se protéger aussi, de comment être visible, à quel moment, pourquoi. Donc, il y avait vraiment une grande réflexion et réflexivité.
Alors, ce livre s'appelle « Famille queer ».
Oui.
Et on le trouve où?
Dans toutes les librairies, en fait. Dans la très grande majorité des librairies.
Et puis, libraire.ca aussi.
Mm-hmm.
Mais merci beaucoup à toutes les deux. Bravo, c'est un très... Enfin, c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de sentiments. C'était
oui,
beau.
Merci.
Oui, c'était beau parce qu'on... c'est pas un livre, comment on va dire, un how-to, là, comment
non.
faire. C'est vraiment des histoires qui nous aident à comprendre la réalité.
Oui.
Merci toutes les deux.
Merci,
merci
à toi.
Merci.
Actualité.
Oui, alors nous avons une invitée qui est en retard. Alors j'espère qu'on va pouvoir rejoindre à Québec Samuel Gagné. Il n'est pas là. Oui, il est là. Samuel, bonjour, bienvenue à l'émission. Samuel Gagné qui attend un petit peu dans mes papiers. Je suis un petit peu mêlé parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Ça, c'est la radio en direct. Là, ça arrive.
Aucun problème.
Bon, alors, je voudrais qu'on parle de la prévalence des agressions sexuelles chez les personnes de la diversité sexuelle et de genre est plus élevée que dans la population générale. C'est un phénomène qui inquiète car les répercussions peuvent être graves alors qu'on le sait, le traitement de ces personnes n'est pas toujours accessible. Samuel Gagné, donc, est doctorant en psychologie, en recherche et en intervention à l'Université Laval. Bienvenue à l'émission, Samuel.
Merci beaucoup.
Alors, on utilise quel pronom et quels accords avec toi?
Il, accord masculin.
Parfait. Allons-y. Quelle est justement la prévalence des agressions sexuelles chez les personnes de la diversité sexuelle et de genre?
En fait, la prévalence des agressions sexuelles chez les personnes plus de la diversité sexuelle, pour ce qui est des personnes qui s'identifient au genre masculin, selon une étude faite par Statistique Canada en 2020, en fait, qui a été publiée en 2020, pardon, c'était qu'environ plus du quart des hommes des minorités sexuelles ont indiqué avoir été agressés sexuellement, contrairement à un homme hétérosexuel sur 10. Donc, on voit quand même là, une différence assez prévalente. Puis, au niveau des femmes de la diversité sexuelle, on parlait plutôt d'une personne qui s'identifiait au genre féminin sur 2, contrairement à une personne sur 3 pour les personnes hétérosexuelles. Alors, on voit vraiment la différence là, de prévalence au niveau de la diversité sexuelle versus les personnes hétérosexuelles. Il faut dire aussi que certaines identités sont plus à risque de vivre des agressions sexuelles, notamment les personnes bisexuelles qui étaient 3 fois plus susceptibles d'avoir été agressées sexuellement par un partenaire intime au cours de leur vie, contrairement aux personnes hétérosexuelles. Alors, évidemment, là, c'est très prévalent. Pour ce qui est des personnes qui s'identifient à la diversité de genre, les données sont un peu plus limitées, mais il y a quand même quelques études récentes là, qui ont fait état de la situation. Donc, on parlerait pour les personnes trans ou les personnes non-binaires qu'il y aurait environ 1 personne sur 2 qui aurait vécu une agression sexuelle. Évidemment, on aurait besoin d'études supplémentaires là, pour être plus certain à ce niveau-là, là, des niveaux de prévalence pour ce qui est des personnes non-cisgenres.
Oui, parce qu'en effet, il semble que les études ne sont pas très, très nombreuses. Hein, sur même déjà sur nos communautés, c'est déjà pas beaucoup, c'est encore. Alors, donc, il y aurait des sondages, des études à faire. Alors, comment on explique le phénomène quand même? Parce qu'on voit quand même qu'il y a plus de violence au niveau sexuel, du moins, plus de violence sexuelle envers les personnes de nos communautés. Comment on explique ça?
C'est certain que c'est multicomposant dans les éducations possibles. Fait qu'on pourrait passer à un séminaire de 45 heures là-dessus. là-dessus, là, ça c'est certain. Mais pour en nommer quelques-unes, il y a évidemment la discrimination et la stigmatisation vécue par les personnes de la diversité sexuelle ou de la pluralité des genres qui est encore présente aujourd'hui. Il y a des personnes agresseuses, agresseurs qui pourraient cibler des personnes non hétérosexuelles ou non cisgenres en raison de leur identité. Donc, évidemment, ça joue un peu dans le contexte de discrimination et tout ça. Il y a également l'isolement social, hein, comme on le sait dans la littérature, parfois les personnes non cisgenres et non hétérosexuelles peuvent avoir des conflits familiaux en raison de leur coming out ou en raison d'autres circonstances de vie. Donc, en étant plus isolé, là, on est effectivement plus à risque de vivre des agressions. Alors, c'est quelques explications possibles. Évidemment, il y a tout le contexte des préjugés, des mythes, du manque d'éducation lié à la santé sexuelle et aussi au consentement, qui sont des facteurs là, qui peuvent avoir un impact sur les agressions sexuelles.
Maintenant, bon, on voit que tu as fait beaucoup de travail et beaucoup de recherches là-dessus, mais il y a des conséquences à ça. Quelles sont les conséquences de ce genre d'agression-là?
Les agressions sexuelles ont plusieurs conséquences, effectivement. Là, on parle de conséquences psychologiques, physiologiques. On parle de conséquences sociales également. Pour en nommer quelques-unes, au niveau psychologique, on peut parler de symptômes dépressifs, donc de sentiments persistants de tristesse, de désespoir ou de perte d'intérêt pour les activités quotidiennes. Sinon, au niveau de l'anxiété, on peut parler de peur ou d'inquiétude face aux relations vécues. Puis, évidemment, le trouble de stress post-traumatique. Donc, comme les agressions sont une expérience potentiellement traumatisante, il est possible d'avoir des flashbacks, des cauchemars ou même de l'évitement lié aux situations. Conséquences physiques, il y a certaines études qui parlent de douleurs chroniques reliées aux agressions vécues. Troubles de sommeil, problèmes de santé sexuelle également lors de prochaines relations sexuelles. Conséquences sociales, on a parlé de l'isolement tout à l'heure pour les personnes LGBT, mais de manière large, là, les personnes qui vont se retrouver dans des contextes d'agression peuvent être plus isolées, avoir des problèmes relationnels avec leurs proches et se sentir stigmatisées, donc la peur d'être jugée en raison de l'agression vécue. Fait que c'est des nombreuses conséquences. Là. Bien évidemment, encore une fois, on pourrait passer plusieurs heures là-dessus. Ça fait pas un tour complet, mais c'est pour vous donner une idée là, des conséquences possibles.
Mais en temps normal, je sais pas, en tant que psychologue, parce que j'imagine que tu fais quand même de l'intervention, même si tu es aux études, qu'est-ce que tu dirais qui est la conséquence la plus forte que tu vois ou la plus fréquente que tu vois?
Que je vois beaucoup de mes expériences de stage, je dirais que c'est beaucoup au niveau de la culpabilité. Les gens vont beaucoup s'approprier le blâme de l'agression vécue. Puis c'est ce qui fait que c'est très difficile d'aller chercher des services. Et on peur que les intervenants confirment ce blâme-là. Fait que c'est un peu ça là, que je dirais qui revient beaucoup là, au niveau des conséquences.
Puis on dit souvent que lorsqu'une personne est victime d'une agression sexuelle, déjà dans un contexte hétéro, c'est toujours très difficile parce que plusieurs fois, la victime ne veut pas, ne peut pas. Mm-hmm. Quand je dis ne peut pas, c'est parce qu'il y a tout plein de contraintes, qu'elles soient psychologiques ou physiologiques. La personne ne peut pas ou ne veut pas se plaindre, ne veut pas aller chercher de l'aide parce qu'on a honte. Est-ce que ce sentiment de honte-là est aussi fort et peut-être même pire à cause de l'homophobie internalisée ou intériorisée qu'on vit?
Mm-hmm. Évidemment, il y a des liens avec l'homophobie, qu'elle soit internalisée ou externalisée. En tant que personne gay, on peut avoir peur qu'une relation entre deux hommes où il y a eu une agression soit banalisée par des intervenants, puisque, bon, une agression, c'est juste une mauvaise expérience. Évidemment, là, je mets des gros guillemets qu'on peut pas voir quand on est à la radio, là. Mais ça fait partie des préjugés là, qui peuvent avoir un impact, là, évidemment, sur le sentiment de stigmatisation.
Et ce qui pourrait peut-être vouloir dire que beaucoup de ces agressions ne sont pas rapportées, justement, par crainte de cette homophobie. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver de l'aide? Là, d'abord, on sait que les gens vont hésiter, quand ils sont victimes, à aller se plaindre à la police, à aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, comment les gens peuvent aller se trouver de l'aide pour se sortir de ce qu'on a décrit comme étant les conséquences là, d'une agression sexuelle?
Oui, ben, il y a plusieurs ressources qui existent là au Québec. Évidemment, c'est des ressources plus généralistes au niveau des agressions sexuelles. Ce ne sera pas très spécifique pour les agressions sexuelles dans un contexte de personnes de LGBTQIA+. Mais il y a tous les CALACS qui offrent des services pour les agressions. Puis il y en a certains qui ont des spécialisations au niveau de la réalité des personnes de LGBTQIA+. Donc, on peut aller chercher des ressources de ce côté-là. Évidemment, tout ce qui est psychothérapie, hein, on peut choisir un professionnel qui se montre comme allié de la communauté. On peut faire un peu un magasinage, si on veut, pour se trouver un psychologue qui est un allié de la communauté. Puis, il y a évidemment le traitement résilient, qui est un traitement qu'on développe là, au sein de mon laboratoire, en fait de ma directrice de recherche qui est Geneviève Belleville. Le traitement résilient, c'est un autre traitement en ligne qui vise les conséquences psychologiques comme les symptômes de stress post-traumatique, anxieux, dépressif et les difficultés de sommeil. Le traitement est en cours d'étude, donc si jamais les personnes intéressées veulent participer au projet d'étude, je les invite à nous contacter soit par courriel à info@commercialresilient.ulaval.ca ou à rechercher Résilient Ulaval sur Google. Là, tantôt j'ai fait le test puis on arrivait directement aux bonnes places. Il faut savoir qu'en ce moment, on recrute des hommes et des femmes et des personnes non binaires qui s'identifient à la communauté de LGBTQIA+ pour nos projets de recherche.
Donc, on parle de projet de recherche, mais mettons que quelqu'un a besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des services? On peut appeler peut-être Interling ou on peut. Puis vont référer à des programmes?
Certainement, les organismes communautaires LGBT, par exemple, le Centre de solidarité lesbienne, Réseau, Interling, il y a différentes lignes d'écoute également qu'on peut appeler qui peuvent nous référer à des services plus spécialisés en agression sexuelle.
Mais les gens qui font appel à tes services vont non seulement avoir de l'aide, mais vont contribuer donc à une recherche importante. Qu'est-ce que tu veux démontrer avec cette recherche-là éventuellement?
En fait, ce qu'on veut savoir, c'est les besoins d'adaptation au traitement en ce moment offert en psychologie pour la communauté de LGBTQIA+. Donc, en partant, les personnes vont justement nous aider à voir les besoins d'adaptation pour les traitements, pour les agressions sexuelles chez les personnes LGBTQIA+.
Et c'est pour des personnes partout au Québec ou parce que là, je sais que tu es à
Oui.
l'Université Laval à Québec, donc on peut te rejoindre de partout au Québec?
Oui, c'est un projet qui s'offre partout au Québec, partout dans la francophonie. Il faut savoir que c'est une plateforme en ligne qui est française. Donc, peu importe dans le monde, on recrute des gens.
Ah oui, OK, partout. Alors, il va y avoir, j'imagine qu'au bout du compte, on va faire des distinctions entre les différentes, ce que j'utilise toujours le mot intersectionnalité, mais en tout cas, le différentes identités. Quelqu'un peut être queer et aussi appartenir à une autre identité. Donc, ça aussi, ça va permettre de faire ces études-là. Parce que présentement, il n'y a pas beaucoup d'études. Hein. On l'a dit, on a quelques statistiques, mais il n'y a pas beaucoup d'études sur les agressions sexuelles envers des personnes de nos communautés.
Effectivement, au Québec, c'est un peu plus limité. Il y a bien sûr quelques études qui sont en cours présentement, que ce soit au sujet des agressions sexuelles ou de la violence conjugale. Je pense notamment à Valérie Roy à l'Université Laval qui travaille beaucoup en violence conjugale LGBT, où il peut y avoir des agressions sexuelles également. Donc, oui, il y a un petit manque au niveau des études sur les agressions sexuelles, mais je dirais qu'il y a des bons chercheurs et chercheurs qui font des études en ce moment-là pour pallier à ces manques.
Samuel Garnier, donc on répète comment te trouver?
Oui, ça peut être sur les réseaux sociaux, LinkedIn, ResearchGate, Samuel Gagné, ou sinon, les personnes intéressées peuvent nous écrire à info@commercialresilient.ulaval.ca.
Merci beaucoup, Samuel Garnier.
Merci beaucoup.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Alors, avant d'aller à notre segment Culture Queer, d'abord, je vais vous dire que malheureusement, un de nos invités ne s'est pas présenté aujourd'hui. On n'arrive pas à le rejoindre, donc on a un petit peu de temps à remplir.
c'est peut-être à cause du métro, on ne sait jamais.
Ah oui, parce que toi aussi, tu étais
là. Ça a été long. Oui,
oui. Oui. Alors, Donald Bilodeau, merci d'être là.
Ben, ça me fait plaisir.
Alors, le segment Culture Queer va parler de littérature après la pause. Oui. La littérature queer. Et toi, tu es un auteur qui a publié des livres.
J'en ai publié deux.
Oui.
Et j'ai participé à un collectif avec toi, d'ailleurs, Denis, oui, Martin, La fierté à une ville. Mais j'ai publié deux romans, effectivement, 2013 et 2015. Mais j'ai eu tellement de difficultés avec mon éditeur que je n'ai pas poursuivi pour l'instant. Il n'est pas dit que je ne reprendrai pas la plume. On verra.
Mais toi et moi, on fait partie des plus vieux qui avons publié de la littérature spécifiquement queer et à une époque où c'était plus difficile de trouver des éditeurs parce
tout à
que
fait.
La thématique était compliquée.
Était compliquée.
C'était difficile de les convaincre de nous publier.
Oui, ça a été très difficile. Si on avait été en Europe, peut-être en France, avec un plus gros lectorat, peut-être, mais au Québec...
Mais encore.
Ouais. Mais j'ai trouvé ça difficile comme... Mais quand même, bon, on est arrivé, on a participé au Salon du livre, on a fait le Salon du livre avec toi.
Le Salon du livre de Montréal.
De Montréal,
oui,
mais ouais, de la fierté aussi.
Ah, oui, c'est la troisième édition.
Littéraire.
Ouais.
Ensuite, au mois d'août, durant le... Voyons,
la fierté littéraire.
Où on fait la fierté littéraire. Donc ça, c'est agréable parce qu'on rencontre d'autres auteurs aussi, souvent des qui publient de façon indépendante. Ouais. Mais oui, c'est une belle expérience.
Oui, oui. Et donc, il y a le Salon du livre de Fierté littéraire. On vient de finir le Salon du livre de Montréal et puis ça, Fierté littéraire arrive avec son... Et la différence, c'est que là, c'est vraiment de la littérature queer, mur à mur.
Oui.
Ça va être... Ouais. Et toi, tu as des invités spéciaux que tu aimerais ou des auteurs spéciaux que tu as le droit t'as hâte de rencontrer à ce salon?
Pas vraiment. Je pense que tout m'intéresse, en réalité. Il y en a, malheureusement, comme là, moi, je vais vous parler aujourd'hui, plus tard, d'une autrice qui est décédée.
Oui.
Je vais vous parler d'un de mes amis qui vient de publier toute une brique. Mm-hmm. Mais non, tous les auteurs m'intéressent, en réalité.
Moi, je lis à peu près 80 à 100 livres par année, c'est clair. Puis par bout, des fois, je me dis « Ah oui, j'ai déjà lu ça, je ne m'en rappelais pas.
» On a une belle relève, Nicolas Giguère, Kev Lambert, etc. Tu sais,
Nicolas Dawson aussi, que j'aime beaucoup, moi.
Je n'ai pas tous en tête, là. Mais,
on va rencontrer, il y aura aussi, on a quelques invités tout à l'heure à Culture Queer. Sadaka Raniva Inès, qui est une poétesse, qui d'ailleurs est en nomination pour un prix des libraires. On va révéler ça tantôt avec elle. Alors, ça va être après la pause, après notre petite pause, ça va être le segment Culture Queer.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DMChabotAuteur et sur LinkedIn, Denis Trait d'Union, Martin Trait d'Union Chabot.
Et puis on peut me retrouver maintenant sur Blue Sky. C'est le nouveau réseau social qui n'est pas X, qui n'est pas Twitter, qui n'est pas un réseau social où, mon Dieu, les algorithmes propagent la haine et les fantasmes des fausses informations.
Oui.
Alors, on n'est pas là-dedans, nous autres.
Non, pas vraiment.
Alors, je vous rappelle qu'après la pause, c'est le segment Culture Queer spécial Salon du livre de Fierté littéraire.
Elle se lève avec Denis Martin Chabot.
Et c'est le segment Culture Queer.
Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Mais oui, c'est le segment Culture Queer et aujourd'hui, on fait un spécial Salon du livre de Fierté littéraire parce que ce week-end, le 7 et le 8 décembre, c'est le Salon du livre de Fierté littéraire. Alors, nos invités aujourd'hui, nos collaborateurs culturels, Brian Saint-Louis qui est à Québec. Salut, Brian.
Bonjour tout le monde.
Et Donald Bilodeau ici à Montréal.
Bonjour tout le monde.
Et je suis allé chercher d'autres invités. L'autrice Sayaka Araniva Yanes, salut.
Allô.
Alors pourquoi je l'ai invitée? Pour deux raisons. Parce qu'elle anime, elle anime une table ronde et aussi ton livre est en nomination pour un prix des libraires. Félicitations.
Oui, merci.
Alors pourquoi je regarde la porno?
C'est, je regarde la porno quand je suis triste.
Est-ce que tu es triste aujourd'hui?
Non, dans non. Je pense qu'il y aurait un problème si j'étais triste.
Et je reçois aussi la personne sous la barbe du drag king Fabien Lhumour, qui est une personne. Donc, est-ce qu'on doit donner ton nom ou on garde ça comme...
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Ouais.
Alors, Félicia Latour, bienvenue à l'émission.
Bonsoir, merci.
Je voulais te dire, moi, je suis épaté par la photo que j'ai vue de Fabien Lhumour. Vraiment, c'est extraordinaire le maquillage. Ça te prend combien de temps à faire ça?
Ça, c'était mon numéro de Vincent Van Gogh. Donc, je me suis vraiment donné le défi de maquillage, de peinturer ma face de son style. Normalement, mon maquillage n'est pas comme ça, mais ça, ça m'a pris au moins 2 heures.
Ah, oh, puis la barbe.
Pour une
et
performance
tout.
De 4 minutes.
Oh, wow.
Ça vaut la peine, hein?
Ah, ben écoute, on est très contents de te recevoir. Et mais pourquoi on reçoit? C'est parce que Fabien Lhumour va faire une lecture, une heure du conte pour les enfants. Et nous sommes le premier organisme, je vais le dire, je vais nous vanter, Fierté... Ah oui, je parle de nous, parce que j'ai oublié de déclarer que je suis directeur artistique de Fierté littéraire, mais je suis capable de porter 2 chapeaux, mais pas en même temps. Fait que je ne vous en pas, là, présentement, j'anime, je ne porterai pas le chapeau de la direction. Mais, mais donc, Fierté littéraire, quand même, c'est le premier organisme à présenter des ordres du conte en français, lu par un drag king. C'est la deuxième fois que ça se fait. Et c'est la première, c'est le premier organisme dans la francophonie. C'est quand même pas rien. Et la directrice de la programme, de la production de Fierté littéraire, Carole B. Thomas.
Salut, salut.
Salut tout le monde. Salut toi. Alors, et je vais le dire, une alliée de nos communautés, qu'on est très contente d'avoir avec nous, comédienne de formation, qu'on voit sur scène assez régulièrement. J'ai oublié de demander quel pronom et quel accord on utilise avec toi.
Félicia, elle est à court féminin ce soir.
Si on parle à Fabien, c'est il, c'est ça?
C'est ça. C'est ça, l'alter ego.
D'accord. Et puis, je ne me trompe pas, c'est IL avec toi, Sayaka, et il avec Donald et Brian. Ben, allons-y. Donc, je le répète par transparence. Oui, je suis le directeur artistique de Fierté littéraire et j'anime une émission de radio ici à Canal M. Et je pense que l'émission... est une émission LGBT, je pense qu'on peut se permettre de parler du Salon du livre queer sans... Alors, on va présenter le Salon du livre, Carole. Je pense que ça va aller à toi tout de suite.
Parfait.
On va parler de la programmation.
On a des beaux cadeaux.
OK, allons-y.
Ça c'est vraiment 2 journées remplies, samedi et dimanche. On commence à 10h30 avec les heures du conte pour nos tout jeunes. Mm-hmm. Donc, samedi, on a avec nous la drag queen Barbada. Et dimanche, à 10h30 toujours, nous avons avec nous le drag king, Félicia Lhumour.
Fabien Lhumour, Félicia Latour.
Je sais que c'est mêlant.
Il faudrait peut-être que je lise mes notes.
Mais pourtant, tes notes devant toi, c'est peut-être les lunettes qui sont plus bonnes.
Je ne lisais pas, je regardais.
Ah, c'est ça.
Pour voir que, sa réaction. Ouais. Bon, après ça, à midi les 2 jours, on a des entrevues. Mm-hmm. On a en premier, samedi, c'est Denis Martin lui-même,
ouais,
avec Moira Ouachtechkon Bacon,
ouais,
qui est Bacon, ouais. Par après ses prescriptions littéraires.
Ouais.
Et dimanche, c'est encore rencontre avec Denis Martin et Michel Doré, mm-hmm. et par après ses prescriptions littéraires. Et ensuite, les 2 journées, on a des tables rondes à partir de 2h30. La première table ronde samedi, écrire queer de la classe. Un très bon sujet. Samedi, c'est animé par Sayaka qui est avec nous aujourd'hui. Elle a 2 invités, Dali Giroux et Benoît Jaudouin. Dimanche, la table ronde, le sujet est écrire queer, ça parle toujours de soi.
Avec un point d'interrogation, tu l'as bien fait, oui.
Ouais, un très bon sujet, ça aussi. Ça va être animé par Denis Martin lui-même. Et ses invités sont Gabriel Cholette et Alex Vien. Mmh. Et pour clôturer samedi, à 16h, on a le lancement du livre de Élise Martin aux éditions TNT. Le titre, c'est « J'avale votre absence ». Et dimanche, pour clôturer, à 16h, nous avons Pascale Cormier, qui est l'animatrice de Transpoésie. Ses invités sont Gabrielle Bouliane-Tremblay, Roxane Nadeau, Jean-Baptiste Leduc. Voilà,
c'est
bien
bon monde,
rempli.
Oui. Oui. Alors, juste pour vous dire que pourquoi on fait un lancement de livre à Fierté littéraire, c'est que c'est la personne qui a gagné Queer Academy en 2022.
Exact.
Et le prix est un contrat d'édition.
Exact.
Donc, c'est un recueil de poésie que j'ai lu, d'ailleurs. C'est très, très beau. Alors, on recommande tout ça.
Oui.
Ben là, c'est le temps de faire un petit tour de table.
Ah, attends, en plus, on a aussi tous nos auteurs, autrices.
Auteurs,
merci. Qui va nous montrer leurs livres. Donc, on a plusieurs tables, plusieurs invités. On a la librairie Luguelion, ainsi que les éditions TNT et
Triptyque,
qui va être parmi nous. Donc, on peut regarder, faire les curieux et peut-être sélectionner des livres à acheter.
Oui, c'est Noël qui s'en vient, c'est le temps.
Oui, c'est le temps.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver là les auteurs ou des auteurs, des autrices, des auteurs queer. Il y en a au Salon du livre de Montréal, mais il faut naviguer là-dedans.
Ils ne sont pas nécessairement non plus vraiment mis en valeur par le Salon du livre de Montréal, je pense. Pas autant que ça, parce que c'est une énorme machine. Là. Ouais. On s'entend, il y a tellement de livres. Donc, je pense qu'on en parlait tout à l'heure avec Carole. C'est bien qu'il y ait un espace vraiment dédié à ça pour que les gens puissent se retrouver partout. Pas juste dans un petit endroit, dans un petit coin, mais partout autour des livres.
Tous les auteurs, auteurs, autrices qui seront, auteurs qui seront là seront des personnes de nos communautés.
C'est ça, exact.
C'est ça. Alors, vous n'allez pas vous tromper.
On peut leur parler de vive voix. Ils seront là.
Oui. C'est mieux que de commander sur Amazon.
Exact.
Bon, le message est passé. Ben, j'aimerais vous poser une question, puis je vais peut-être lancer là-bas. Je vais faire un tour de table. J'aimerais que... C'est quoi la littérature queer?
Oh mon Dieu.
Ça y est, car.
Je voulais lire une citation d'un texte de Nicolas Dawson, en fait. Je me demande si j'ai tout le droit de faire ça.
Ben oui.
Parce que je l'ai.
As-tu
peux faire ça. Sur ce que c'est pour moi la littérature queer.
Tant que c'est un extrait, je pense qu'on peut lire un extrait. Ça va pas à l'encontre des droits d'auteur.
Parfait. Mais dans le fond, c'est tiré de Désormais ma demeure, à la page 93, qui est un livre de Nicolas Dawson, qui dit « L'espoir queer ne nie pas les souffrances à l'origine de nos récits. Il tient dans la possibilité de manipuler ces souffrances, de les remodeler et de les réinvestir à l'intérieur de formes qui nous sont propres. Portés donc par cet espoir queer, nos fêtes scintillantes célèbrent autant notre fierté et notre visibilité que nos différences, nos mauvais souvenirs, nos terreurs nocturnes, nos traumas, nos maladies, nos morts, nos deuils et nos luttes. Nos fêtes ne réduisent pas au silence les douleurs qui nous poursuivent. »
Ouh, ouais. Hein?
Et moi, j'ai vu ça aujourd'hui, parce que je me demandais, pour moi, c'est quoi la littérature queer? Et bon, moi, j'ai été éditée par Nicolas Dawson, en plus. J'ai eu la chance, pour mon recueil, d'être éditée par l'unique et le seul, Nicolas. Et ça a toujours été pour moi un exemple, vraiment, de ce que c'était la littérature et comment ça se manifestait comme subversion à l'intérieur même du milieu littéraire québécois. Donc, pour moi, c'est vraiment ces espèces de fêtes radicales où on ne nie pas nos souffrances. En fait, on fait la fête avec elles. Donc, pour moi, c'était vraiment... C'était ça.
Ma chère alliée, Carole B.
Oui.
Comment tu définirais, toi, la littérature queer?
Très intéressant.
Oui.
Très eye-opening. Comment on dit eye-opening en français?
Ça ouvre les yeux.
Ça ouvre les yeux.
Oui, parce qu'il y a tellement de choses que moi, comme comédienne... que j'ai besoin d'apprendre. Et j'adore la découverte. Ça va être ma première fois de voir un drag queen live. Des drag queens, ça fait 20 ans. Mais un drag king, ça va être ma première fois. Fait que je trouve ça génial. La littérature, c'est une belle découverte. Les écrivains, c'est encore... C'est du bonbon. C'est génial d'avoir cette opportunité-là, avoir toutes ces personnes-là dans un même lieu. Puis d'être capable de partager et d'apprendre. Je trouve ça génial.
Puis à Fierté littéraire, on a engagé Carole pour être directrice de production pour ses compétences, mais on s'est dit pour son ouverture aussi. Écoute, t'as-tu déjà joué un personnage lesbienne ou pas encore?
Oui, au Fringe, il y a une vingtaine d'années, je faisais la femme de Martina Matra Trelova.
Navratilova.
Thank you. Je faisais sa blonde.
Ah oui.
Donc, il fallait que je l'embrasse et tout. Et ça s'est super bien passé. Je me suis bien amusée.
I kissed a girl.
Oui.
Tu fais attention, hein? Félicia,
oui.
Qu'est-ce que c'est la littérature queer pour toi?
Pour moi, c'est autant les autrices que le public, que les thèmes, mm-hmm. les thématiques. Et j'ai beaucoup aimé la citation que tu as partagée, Sayaka. Et pour moi, j'irais peut-être un pas plus loin que Nicola Dawson, en tout respect. mais parce que de ce que j'ai compris, oui, on peut parler de nos luttes et de nos souffrances, mais aussi de nos fiertés, de nos, mm-hmm. nos joies. Je suis beaucoup dans la joie queer ces jours-ci. Puis j'aime aussi penser que en dehors des communautés LGBTQIA2S+,
oui.
yeah. on peut queer it. J'aime beaucoup le mot queer en tant que verbe, surtout en anglais. Mm-hmm. Comment on peut redéfinir ce que ça veut dire la normativité dans la façon d'élever nos enfants, dans la façon de consommer, dans la façon de penser à notre système de justice. Et j'adore la littérature qui, oui, va peut-être me parler des histoires inspirantes de nos communautés, mais peut-être qu'il va me challenger sur une façon de penser que j'avais pris pour acquis, un système.
C'est la révolution.
Voilà. oui. voilà.
C'est bon. Donald.
Ben moi, je seconde pas mal Carole sur ce qu'elle a dit. Et en tant que gay plutôt âgé par rapport à la moyenne d'âge ici...
Attention, là, c'est moi qui ai le plus vieux ici.
quand j'étais jeune, disons, dans les années 70-80, il n'y avait pas énormément au Québec de littérature gay. Il y avait Michel Tremblay, on avait quelques auteurs comme Yves Navarre ou autres.
Mais c'est surtout la littérature des hommes. Il n'y avait pas beaucoup de littérature de femmes.
Non, il n'y avait pas de
puis oublie les littératures des
puis
autres.
Puis la littérature d'hommes, c'était très dramatique. Ça finissait
tout le monde
toujours...
mourait à la fin.
C'était très, très lourd. Comme Yves Thériault, celui qui a écrit Agagouk, là, qui avait écrit Le partage de minuit, un livre. Tu veux te suicider, c'est terrible. Alors pour moi, la littérature queer, c'est une ouverture sur le monde, puis sur des nouvelles générations et sur la liberté. Pour moi, c'est le mot liberté que je retiens de ça.
Brian. C'est quoi pour toi la littérature queer?
Bon, tu me fais passer après tout le monde. Ouais, alors, on a tellement eu des belles réponses.
Mais c'est parce que t'es le meilleur de tous, c'est notre chroniqueur littéraire. Alors, c'est pour ça que j'ai dit je vais donner la chance aux autres, là, parce que je savais que t'étais pour tout avoir les bonnes réponses. Allez, on y va. J'étais assez léché, là.
Non, mais la littérature queer, ces temps-ci, c'est juste bien qu'il y en ait autant et que ça se retrouve de plus en plus dans les... dans la littérature populaire, dans la littérature grand public, que ce soit de plus en plus accessible. Les gens, avant, ben justement, comme disait Donald, n'avaient pas nécessairement accès à ces choses-là. Et puis c'est bien de se voir représenté dans la littérature d'un peuple, c'est important. Les gens vont lire ça, vont se reconnaître dans ces histoires-là. Donc, c'est bien qu'on puisse avoir toutes sortes d'histoires, que ce ne soit pas justement que simplement des couples hétérosexuels tout à fait normaux. De la même façon qu'on est heureux de voir des séries gays, des films, de se voir représenter, ça montre qu'on fait partie de la société au même titre que tout le monde, qu'on existe, qu'on est là, qu'on a des histoires, qu'on a des drames, qu'on a des choses. Donc, la littérature à ce titre-là, c'est bien qu'on puisse maintenant retrouver autant de plumes pertinentes, avec des histoires intéressantes, des grands écrivains aussi, parce que parfois, c'était seulement le fait que c'était un thème gay qui faisait que c'était publié. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des très bonnes plumes. C'est de qualité ce qui est produit maintenant. Beaucoup au Québec, Nicolas Dawson, justement, avec sa collection, montre qu'il y a beaucoup, beaucoup de place et de plumes. Donc voilà, moi, je suis très content de voir qu'autant de monde se retrouve dans ces livres-là.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Culture queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Wow, on a beaucoup d'auteurs, d'autrices, d'auteurs autour de la table et aussi de personnes qui aiment la littérature. Là, j'aimerais ça peut-être qu'on parle de cette fameuse heure du conte, hein, qui est assez controversée pour certains. Moi, je trouve pas, là, mais pour certains, certaines, ça l'est. Fabien, l'humour, Félicia Latour, c'est la première fois que tu vas faire ça?
Oui, ça va être ma première fois. J'ai déjà fait un événement pour la coalition des familles LGBTQ+, justement quand cette controverse avec la pétition du Parti conservateur menée par Éric Duhem pour bannir l'heure du conte avec les dragues est sortie. Et la coalition voulait être solidaire avec les dragues, donc j'ai fait un événement pour eux. C'était vraiment le fun. Et dans une autre vie, j'ai travaillé dans une garderie à Berlin. Alors, j'adore les jeunes, j'adore les tout-petits. Alors, je me suis déguisée en Gaston de La Belle et la Bête. On a eu bien du fun ensemble. Alors, ça va être similaire, mais oui, avec vois, ce côté littéraire.
Est-ce que tu peux nous donner un petit scoop? Tu vas t'habiller comment? Ou c'est pas décidé encore?
Ben, c'est à moitié décidé. Je suis vraiment chanceuse parce que j'ai beaucoup de kings autour de moi à Montréal qui sont des très bons costumiers. C'est pas ma force, je l'avoue. donc, mon ami Hercules Lees, quand il fait des événements avec les enfants, c'est Hercules Sneeze. Et oh, wow. Il m'a prêté un très beau complet jaune, velours, un peu à l'Est au Pays des Merveilles.
Wow!
Voilà le look. Ouais. Wow.
Parce que c'est vrai que nous, t'as changé ton nom aussi pour les enfants parce que tu fais ton nom de drag king dans les spectacles, c'est Fabien Lamour.
C'est ça. Au Mado, on me connaît plutôt par Fabien Lamour. Et c'était l'idée de mon père. Parce que son frère s'appelle Fabien Latour. Il se faisait toujours niaiser quand il était jeune. Hey, « Fabien Latour, est-ce que tu fais bien l'amour? » Bref, quand je suis devenue king, mon père m'a donné cette belle idée-là. Mais pour les familles, je pensais que ça serait un peu plus approprié d'être Fabien Lamour.
Oui, oui, oui.
Génial.
Oui. Sayaka, tu vas t'animer une table ronde.
Oui.
Et on va... En fait, l'idée que j'avais lancée quand je t'ai demandé de la faire, c'était... ben, ça le fun de parler de transfuge de classe. Parce qu'il y a... Parfois, quand on fait une sortie du placard, moi, je peux vous le dire, je l'ai fait... Il y a comme aussi un transfert de classe qui se fait, un transfuge de classe qui se fait. J'ai été longtemps, moi, j'ai eu honte de ma famille, j'en parlais pas trop.
Mais je pense qu'on veut surtout déconstruire cette notion-là, parce que là, on l'a vu, les gens pensent qu'il y a comme un boom en ce moment de la littérature de transfuge de classe, mais les enjeux de classe ont toujours affecté tout le monde tout le temps. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ce qu'on a écrit, mais on peut pas non plus nier que la littérature comme institution est bourgeoise. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment radical dans l'insertion ou dans... comment assumer les enjeux de classe, comment ça nous a affectés, puis comment ça se transpose dans ce qu'on écrit. Donc, je pense que je connais notamment Benoît et Dali. On est tous des personnes assez militantes, assez radicales aussi dans nos opinions. Donc, je pense qu'on va plutôt venir décortiquer ces notions, puis pourquoi peut-être certaines personnes n'adhèrent pas nécessairement à cette identité de transfuge de classe, malgré le fait d'écrire à partir de ces enjeux-là. Je pense qu'on va aussi aborder des éléments intersectionnels par rapport à nos écritures, par rapport à comment on a vécu nos vies. Moi aussi, j'ai jamais fait de coming out à ma famille, là, personnellement. Là, mes parents ne savent pas. Ils ne vont pas le savoir, mais c'est pas tant une question d'enjeu.
Mais là, tu es à la radio, est-ce qu'ils écoutent la radio?
Non, puis en plus, j'en ai parlé souvent, mais quand mon livre est sorti, j'ai eu une entrevue avec Samuel Larochelle dans le magazine Fugue, qui est comme le magazine du village. Puis moi, je me suis dit, oh non, mes parents, ils n'ont jamais... Mon père, il travaille en construction. C'est pas son milieu. Ma mère, elle travaille dans une clinique de dentiste. Puis ses deux boss sont gays. Fait qu'eux, ils font venir la revue Fugue dans la salle d'attente pour que les gens puissent lire la revue. Mais moi, je le savais pas. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait le magazine Fugue dans une clinique de dentiste dans Rosemont. Et là, ma mère, elle m'appelle. Puis elle me dit, pourquoi t'es dans un magazine de gays? Puis là, moi, c'est là où... Là, elle m'a expliqué qu'elle avait eu la revue. Puis que là, c'est ses collègues qui lui ont dit, regarde, ta fille est là-dedans. Là, j'ai dit, oh, mais tu sais, c'est parce que je travaille à Le Guélion, c'est dans le village. Tu sais, il a fallu que je trouve, tu sais, encore aujourd'hui, je dois mentir, masquer, mais tu sais, ça fait juste partie de ma réalité, mais c'est pas tant lié aux enjeux de classe. Tu sais, encore là, je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir des lunettes intersectionnelles, parce que même si on a grandi dans la pauvreté avec mes parents à l'époque, c'est surtout des enjeux culturels qu'il s'agit, là. C'est plus, et peut-être même religieux aussi, là. Donc, je pense que c'est plus comme là-dedans. Mais on veut vraiment, je pense, avec Dali et Benoît, aborder toutes ces choses-là qui sont intrinsèques, pas juste les enjeux de classe, mais c'est sûr que ça reste central à la discussion parce qu'on est tous sensibilisés par rapport à ça.
Oui, puis moi, je vais aborder la question de ce qu'on appelle l'autofiction. On lit pas pendant qu'on conduit une auto, là, on s'entend, là, mais on est... est-ce que c'est toujours à propos de nous? Puis c'est vrai que dans beaucoup, beaucoup des romans qu'on écrit sont des romans initiatiques, où, c'est souvent ça qui se retrouve. Alors, ça va être un peu dans la discussion, puis souvent, je me dis, c'est une excuse pour parler de littérature queer, on trouve des thèmes, puis on travaille autour de ça. Je pense que chacun d'entre nous avons des coups de cœur littéraires, puis je pense que je vais commencer à Québec, tiens. À Québec, avec Brian, tes coups de cœur littéraires, parce qu'on s'était dit que tout le monde parlerait d'un ou deux romans ou un ou deux livres.
Oui, ben moi, je vous parle de romans tous les mois, donc je peux vous parler de mes deux dernières lectures, peut-être. Je ne sais pas si c'est mes coups de cœur, mais c'est deux romans importants de cette année quand même, donc ça fait du bien qu'on en parle. Je vais commencer avec Toby Lachmacher, Ma sexualité en toutes lettres, paru chez La Peuplade. Oui, Sakaïef, oui, de la fête. Ça ressemble justement un peu au recueil de poésie que vous avez écrit. C'est une écrivaine néerlandaise je vais utiliser le « elle » parce qu'au moment où elle écrit le livre, elle s'appelle Sophie et maintenant elle s'appelle Toby. Donc, on devine un petit peu c'est quoi le punch de ce roman-là. C'est un roman de transition, une écriture où elle explique, elle raconte son histoire, une écriture très frontale. On est vraiment très direct, il n'y a pas de quatrième mur dans ce livre-là, on s'adresse directement au lecteur, on lui raconte son histoire. Elle va nous parler de ses histoires d'amour, ses relations sexuelles. On n'est pas graphique, là, mais on est dans les relations de corps. Et là, Toby Lachmacher nous explique comment, quand elle était une femme, comment ça se passait, ses relations. Elle a eu des relations avec des hommes. Après ça, elle est passée aux femmes. Après ça, ça a toujours été des femmes, comme elle explique. Et il y a toujours quelque chose quand même qui ne fonctionnait pas dans ces relations-là. Et là, plus le roman avance, plus on comprend qu'est-ce qui cloche. Et à un moment donné, elle explique à la fin, puis c'est d'ailleurs ce que le punch du livre nous disait avec son changement de nom, c'est qu'à un moment donné, elle fait le choix d'être moins fille et plus garçon. Donc, elle va habiter dans cette espèce d'univers flou-là. Et c'est super intéressant. Il y a beaucoup de références très néerlandaises, justement. On va marquer beaucoup de joueurs de football néerlandais, d'animatrices de télévision néerlandaises. C'est très dépaysant, mais une écriture très frontale, très directe. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent avec ce ton-là. Ben, une femme qui est maintenant devenue un homme. Mais lecture intéressante quand même, c'est La Peuplade qui a décidé de publier ça en français, Ma sexualité en toutes lettres. Donc, fort intéressant ce livre-là quand même, qui est paru il y a quelques semaines.
Mais là, toi, tu vas nous parler du titre oui. pour le temps des fêtes pour décembre.
Oui, il faut le lire au mois de décembre. Kev Lambert, Les Sentiers de neige, lui, c'est chez Héliotrope. Kev Lambert, qui était... lui aussi, il a changé de nom. Avant, il s'appelait Kevin. Maintenant, il s'appelait Kev. Son troisième roman, Prix Médicis, Prix Décembre, Prix Ringuet. On l'attendait vraiment avec ce nouveau roman-là pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire. Il change encore une fois de façon d'écrire, de propos. Il nous offre un roman initiatique, une espèce de rite de passage que vont subir deux adolescents. Il y a Amy Anne, qui est une jeune adoptée. Il y a Zoé, qui est un jeune garçon qui se cherche. Et là, il va nous faire une espèce de fable de Noël où les deux vont partir dans des sentiers de neige. Ça ressemble à un jeu vidéo. La frontière entre le réel et le fictionnel est excessivement floue. C'est un roman initiatique. On sent les questions qui vont avoir à peser. C'est un très long roman aussi, hein. Moi, je vais vous dire, j'ai aimé ça, plus vers la fin. J'ai trouvé que c'était un peu long avant que l'action vraiment démarre et qu'on embarque vraiment dans cette histoire-là. Il y a des punchs qu'on voit un peu venir. Il utilise la symbolique du masque qu'on a déjà vu chez Mishima, qu'on a déjà vu chez Christopher Frank, par exemple. Donc, il n'y a peut-être pas énormément de nouveaux, mais quand on le termine, c'est une œuvre touchante, c'est une œuvre intéressante, mais ce ne sera peut-être pas un coup de massue littéraire aussi fort que l'était son précédent, par exemple, qui avait une portée beaucoup plus universelle, là. Mais on est dans une famille de Noël vaguement raciste, vaguement homophobe du temps au Saguenay au début des années 2000. Donc, des propos très actuels quand même là, qui vont intéresser beaucoup de monde.
Bien, merci. Allons voir peut-être d'autres coups de cœur, Donald.
Oui, moi j'en ai deux. J'ai deux coups de cœur.
Et puis il nous reste à peu près cinq minutes, donc on va y aller.
On va essayer d'aller vite. Anne Robinson, que nous connaissons tous les deux, Denis Martin, on l'avait rencontrée. C'est avec regret que j'ai appris qu'elle est décédée le 25 avril 2022. Alors, elle a écrit un roman magnifique qui s'appelle « Et si j'en étais » paru au Vent d'Ouest, aux éditions Vent d'Ouest. Je vous lis rapidement le début de la quatrième de couverture qui dit... Île d'Orléans, fin des années 80, fraîchement divorcée et mère de quatre enfants, la narratrice goûte les plaisirs du célibat lorsqu'au détour d'un colloque féministe, l'amour se présente à nouveau, cette fois sous les traits d'une femme. L'onde de choc est si puissante qu'elle l'oblige à affronter ses peurs, sa famille et son entourage professionnel pour assumer ses nouvelles préférences sexuelles. Alors, Anne Robinson, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. C'est très tendre, c'est très bienveillant. Quand elle parle de ses enfants, elle ne les nomme pas. Elle va parler de sa première fille.
Ouais.
Elle l'appelle avec un P majuscule puis un F majuscule. Première fille, deuxième garçon, dernier-né pour son plus jeune fils. Donc, elle parle de sa vie, de son entourage, mais sans... en englobant tout son monde, mais sans les nommer. Mmh. Alors, il y a quelque chose d'enrobant dans son écriture. C'est très, très doux. C'est très, très...
Avant d'aller à ton deuxième,
oui.
On va aller à Félicia. Oui.
Voilà.
Salut. Mais je vous parle d'un livre qui est sorti en 2005. Oh, alors, oui. Ça fait quand même longtemps, mais ça va être un des livres que je veux lire à l'heure du compte. C'est « Et avec Tango, nous voilà trois » de Justin Richardson et Peter Parnell, image de Henry Cole, apparu avec Rue du Monde. Et c'est une histoire vraie de deux manchots au zoo de Central Park à New York, qui deux mâles qui étaient de meilleurs amis, puis ils regardaient les autres couples de manchots dans le zoo, ils étaient un peu jaloux. Pourquoi, tu sais, les mâles et les femelles ont des bébés, puis nous, on n'en a pas un? Puis finalement, un employé du zoo a choisi de leur donner un œuf d'extra d'un couple qui ne pouvait pas le couver. Puis ces deux pingouins mâles ont réussi à avoir leur propre bébé. Et c'est une très belle histoire. Il y a même des photos des vrais manchots qui sont malheureusement décédés maintenant. Mais c'est une très belle histoire. Puis je pense que les enfants vont aimer les illustrations d'animaux parce que moi, j'aimais ça.
Il ne nous reste plus de temps, mais on va juste voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit avoir un coup de cœur?
Ben moi, je suis libraire, je peux faire ça vraiment vite. Il y a un livre qui s'appelle Paradise Rot que j'ai lu récemment. Puis ça, c'est pourriture, lesbien, amour dans une maison délabrée, pisse. Après ça, j'ai un autre livre qui s'appelle Salope, qui est une traduction de Denise Cooper. Dans le fond, c'est site d'escorte, trash, tous les trigger warnings, mais vraiment incroyable. Et les deux, je pense, iraient dans la thématique de horreur.
Bon.
Oui. Ben, nous, Fierté littéraire, on est très fiers de vous accueillir tout le monde au Salon du livre ce week-end.
À la Comédie de Montréal.
À la Théâtre La Comédie de Montréal, 11-13 Boulevard de Maisonneuve-Est, samedi et dimanche de 10h à 5h.
Mais moi, je vais vous recommander de Valérie Beau, Partir, un roman absolument génial. Où c'est une personne une femme lesbienne qui fuit la Syrie. C'est vraiment beau, c'est vraiment intéressant, c'est très touchant. C'est publié en France, mais bon, on peut le trouver en ligne. Écoutez, oh mon Dieu, on arrive à la fin de l'émission. Je vais remercier toute l'équipe, tout le monde d'avoir été là. Je n'ai pas le temps de vous nommer. Je vais remercier quand même Maurice Bolduc à la mise en onde et toute l'équipe de recherche de Fierté, mon Dieu, je mêle toutes les choses, de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Je m'appelle Denis Martin-Chapeau, à la semaine prochaine.
Bye!